C'est parce que Radio Capéine et le Congo que vous êtes concernés par cette émission. Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs est votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
Encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien qui s'intéresse aujourd'hui au laboratoire agricole. Quelle est l'importance d'un laboratoire agricole? Vous savez, dernièrement, un laboratoire biotechnologie agricole a été inauguré par le chef de l'État. C'était le mardi dernier à Kalambo, à environ 20 km de la ville de Bukavu. Au sud Kivu, ce laboratoire est l'œuvre de l'Institut international de l'agriculture tropicale, ITA en sigle. Pour le président de la République, la recherche est la composante essentielle du développement agricole. Alors, quelle est l'importance de ces laboratoires? Que peut être son apport dans l'amélioration de la production agricole en République démocratique du Congo? Pour en savoir plus, nous avons en ligne Monsieur Bernard Van Loo. Il est directeur régional de l'Institut international d'agriculture tropicale. Monsieur Bernard Van Loo, encore une fois, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Bien.
Comme vous avez très bien...
Oui, allez-y.
Comme vous avez très bien expliqué, on a été très content de voir reçu le président de la RDC mardi prochain.
Mardi dernier, oui.
Mardi passé. Une des activités qu'il est venu faire, c'est inaugurer le labo de moderne biotechnologie. C'est un laboratoire qui vraiment avait besoin très important au Congo. Comme vous savez, il y a beaucoup de maladies qui traitent la productivité des cultures ici, à l'est du pays, mais aussi ailleurs au pays. Les maladies, souvent, sont liées avec des cultures qui sont prioritaires pour le pays, comme le manioc, le banane, même le maïs. Et ce qu'on voit, que c'est surtout, beaucoup de ces maladies sont des virus, ce sont des espèces microbiennes qui sont très souvent transportées avec les matériaux de semis, les boutures pour le manioc, par exemple, les rejets pour les bananes. Donc, en principe, si on utilise les matériaux, les systèmes locaux de dissémination des matériaux de planting, on est en train de distiller les maladies parce qu'ils sont cachés dans les boutures et dans les rejets. Donc pour répondre à ce défi énorme quand même, il faut introduire des matériaux sains et à grande échelle et aussi d'une manière assez efficace pour qu'on puisse remplacer beaucoup d'hectares dans le minimum de temps, disons. Donc c'est dans ce contexte qu'il faut le rôle de ce labo. Ce labo a deux composantes qui sont importantes pour répondre à ce défi.
Oui.
Il y a une composante qu'on appelle en anglais « tissue culture ». En français, on pourrait traduire comme « culture en tissu ». C'est une méthode qui est classique, qui est utilisée dans beaucoup d'autres parties au monde, même en Afrique, où on utilise des cellules simples de plantes pour produire des microplantules qui sont gérés d'une certaine manière et qui donnent, dans un temps assez court, des matériaux sains, sans virus et homogènes. Oui. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a installé ici pour utiliser ces méthodes pour le manioc, les bananes, même le café, on peut produire comme ça, l'eucalyptus, on peut produire comme ça. Surtout les cultures qui ne sont pas produites à base de graines. C'est surtout ça qui est notre focus.
Oui. Alors, Monsieur Bernard, quand on parle d'un laboratoire biotechnologie agricole, qu'est-ce que cela veut dire exactement?
Biotechnologie, ça veut dire qu'on utilise des méthodes biologiques moléculaires pour implémenter les activités qu'on est en train de faire. Les méthodes qu'on utilise ne sont pas des méthodes GMO. On n'est pas en train de créer de nouveaux matériaux à base d'échanger de DNA entre cultures. Ce sont des procédures qui rapidement des processus moléculaires biologiques. Je sais que c'est un peu technique ce que je suis en train de dire, mais...
Oui. Bon, vous pouvez expliquer cela en des termes beaucoup plus simples pour faciliter la compréhension.
Oui, je comprends, oui. Donc, ce sont des méthodes qui utilisent la biologie des plantes même, oui, pour faire cette multiplication. En principe, ce qu'on fait, on utilise une plante. Comme vous savez, une plante s'accroît d'une certaine position dans la plante même. On utilise, on coupe la partie de la plante qui croît, on prend les cellules de cette partie et on les récultive dans un médium qui est fait pour la croissance de ces cellules. Ils produisent des conglomérats de cellules après quelques temps qui vont chacun de eux donner une autre plante très, très petite, une microplante, microplantule. Et cette microplantule est encore transférée dans d'autres étapes où ça devient un banane de 2 cm ou de 3 cm qui est après encore traité dans des pots ou dans la serre pour que ça vienne des plantes qui sont prêtes à mettre au champ.
Voilà, si je comprends bien l'importance de ces laboratoires agricoles, vous avez dit au début de cette émission qu'il y a beaucoup de maladies qui attaquent les plantes. Donc le but de ces laboratoires est d'étudier comment mettre en place des semences améliorées ou des boutures qui vont résister à toutes ces maladies qui attaquent nos plantes.
Exactement. L'idée de ce labo, c'est de miser à grande échelle et assez vite des semences, disons, des cultures qui sont multipliées, pas à travers les graines, mais à travers les boutures ou les rejets, de faire ça assez vite et sans introduction de virus et des plantes d'une qualité homogène. Résumant, c'est ça, exactement.
Et quelles sont les plantes qui utilisent, par exemple, les boutures et les rejets?
Ben, comme je dis, on est établi pour faire appliquer ce système pour le manioc, les bananes, le café, l'igname, la patate douce. On est établi pour faire cela déjà. Mais la procédure aussi pourrait s'appliquer pour le cacao, l'eucalyptus et autres cultures qui sont multipliées à travers des rejets ou des boutures ou autres manières en dehors des graines. Donc pour le maïs, pour le soja, on ne va pas utiliser ces méthodes.
Voilà, et pour la pomme de terre qui est beaucoup plus cultivée dans la partie est du pays.
La pomme de terre aussi, ça s'applique. On pourrait utiliser les mêmes techniques pour la pomme de terre, exactement.
Voilà. Alors là, une question que l'on se pose, pourquoi avoir choisi d'installer ce laboratoire à Kalambour, environ 20 km de Bukavu, qu'est-ce qui a motivé ce choix?
Ouais, depuis l'IETA, vous avez déjà introduit l'IETA. L'IETA, on est une organisation de recherche qui travaille partout en Afrique. On est actuellement présent en plus de 20 pays. On a un staff de plus de 200 scientifiques et plus de 1500 autres staffs. On est partout en Afrique, disons, sous-saharienne. Ici, en Afrique centrale, notre plus grand labo de recherche, c'est à Bukavu, à Kalambo, proche de Bukavu, comme vous avez dit. On a déjà des infrastructures ici. L'IETA travaille sur tous les aspects de chaîne de valeur. On commence avec le sélectionnement des variétés améliorées. On entre dans le système de semences, dont le labo qu'on vient de parler fait partie. On entre dans le domaine de l'agronomie, de comment produire les plantes de manière agronomique qui sont acceptables. On entre dans la transformation et on entre dans la commercialisation des produits. Donc nous, l'idée, on travaille sur tous ces domaines. Ce labo dont on est en train de parler est seulement une des composantes qui est active ici à notre station de Kalambo. Donc on a choisi Kalambo parce que c'est là où on a notre base de recherche. Il y a le labo de sol, il y a le labo microbiologie, donc toutes les infrastructures de recherche sont là. On est aussi à Kalambo parce que le labo de Kalambo n'est pas seulement là pour servir l'Est du Congo, mais aussi les pays voisins. Donc, à travers ce labo, on travaille aussi au Rwanda, au Burundi, même en quelque part de Tanzanie ou de l'Uganda. Donc, c'est vraiment une infrastructure régionale. Les plantules qu'on est en train de produire, ça va aussi servir d'autres pays. Même au Congo, on ne va pas se limiter à l'Est du Congo. L'idée, c'est que ce labo prévoit aussi le matériau de semis pour toute la République, disons.
Voilà. Alors dites-nous, M. Bernard, quel pourrait être l'impact de des recherches qui seront menées dans ces laboratoires sur l'agriculture, sur la production agricole en République démocratique du Congo?
L'impact est lié avec la distribution des variétés améliorées. Quand moi j'ai commencé à travailler ici à l'est du pays, j'ai commencé à travailler en 2006 ici. Souvent, les gens, quand on faisait des réunions participatives, demandent souvent aux gens quels sont les problèmes que vous expérimentez ici. Et je me rappelle très bien qu'il y a des gens qui ont dit, nous, on voudrait planter le manioc, mais il y a trop de maladies, on plante maintenant les patates douces parce qu'on doit manger, mais on veut vraiment réengager dans la production de manioc. Cela était lié avec le fait qu'à ce temps-là, il y avait le mosaïque de manioc. Qui avait vraiment un effet très négatif sur la productivité. Aujourd'hui, c'est une autre maladie, c'est la striure brune qui affecte la production de manioc. Donc l'impact, si tu l'as dit, doit se placer dans ce sens-là. On a identifié des variétés résistantes en Tanzanie, ils sont entrés au pays. Maintenant, avec le support de l'INERA et SENASEM, je voudrais vraiment renforcer qu'on fait tout ce travail avec l'INERA, et les SENASEM, parce qu'il y a des procédures qu'on doit suivre pour introduire des variétés. Donc l'impact se trouvera à ce niveau-là, où vite, ou efficacement, on pourrait remplacer ces variétés locales qui sont sensibles à ce virus avec des variétés améliorées, qui n'ont pas seulement une résistance, mais qui sont aussi appréciées par la population en termes de goût et de transformabilité, comme on dit en français, je suppose, de culture. C'est pas l'idée seule qui va y arriver. Je voudrais vraiment stresser cela. Nous, on est une organisation de recherche. Nous, on cherche des solutions pour des problèmes qui sont prioritaires pour la population agricole.
Alors, d'accord, je reviens à vous, monsieur Bernard. Nous allons accueillir deux auditeurs et ensuite je reviens à vous tout à l'heure. Nous parlons de l'importance d'un laboratoire agricole, dans le cas du laboratoire de biotechnologie agricole inauguré récemment à Kalambo, à environ 20 km de la ville de Bukavu, au sud Kivu. On va accueillir deux auditeurs, Pierrot Pagna et Talumbashi et Joël nous appelle de Magui. De Magui, vous voulez également participer à cette émission, composée de 081 890 63 94.
Retrouvez les magazines des Nations Unies, désormais tous les dimanches à 8h30 et 19h05, ainsi que tous les mercredis à 14h15, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi, votre radio.
Bien, Pierrot Pagna, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, Jody, Daniel Kachama, bonjour à l'invité, et bon début de week-end à tous les...
Pierrot, nous parlons aujourd'hui de ces laboratoires inaugurés récemment à Kalambo. Quelle est son importance? Alors, quelles sont vos questions par rapport à cette thématique?
D'abord, je félicite cette initiative dont nous ne savons d'abord pas. Moi personnellement, je ne connais pas si c'est une ONG qui est soutenu par l'État, parce que nous avons vu le président inaugurer, que l'État aussi va mettre quelques moyens là-bas pour son fonctionnement, je ne sais pas. Alors, nous voudrions que ce projet puisse tenir, parce que nous souffrons ces derniers temps, le Congo est dans la crise économique et alimentaire.
Surtout à Lubumbashi, il y a la crise de maïs, vous n'avez plus assez de maïs, on a suivi dernièrement. Les autorités congolaises ont signé des contrats avec la Zambie pour la fourniture de maïs.
C'est surtout ça, c'est ce qui va me pousser de poser une très bonne question là. pourquoi les choix des Kalambo? Est-ce que les Kalambo a de grands projets agricoles au lieu de choisir, parce qu'il y a une maladie que nous avons débattue encore dans l'émission au Capi Service sur la maladie Konzo liée à un virus qui affecte le manioc où les gens souffrent. Alors, le laboratoire apporte son expérience dans la recherche de ce qui peut tuer ce que nous sommes en train de cultiver. Alors, pourquoi choisir Kalambo au lieu d'aller peut-être à Matadi ou choisir une site où on a déjà fait des projets agricoles qui sont capables de nourrir quelques 3 ou 4 provinces, voire même toute l'étendue de la province? Pourquoi ce choix de cette ville? Ça, c'est une première question que je voulais poser. Alors, nous savons que partout actuellement ici, il y a des maladies qui affectent surtout le maïs. Surtout maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que ces laboratoires-là va aussi se basera seulement sur ce qui est en train de tuer ou de détruire les plantes que nous cultivons, ou ce laboratoire sera aussi là pour nous pousser à rechercher d'autres espèces que nous n'avons pas? Ça, c'est une deuxième question. Pour chuter, j'ai une troisième question que je voulais demander. À part ici chez nous, ce laboratoire a été peut-être inauguré ailleurs, dans un autre pays. Qu'est-ce qu'il a déjà amené comme changement dans les pays où le laboratoire a déjà vu les deux jours?
Au Nigeria, par exemple, à Ibadan, au Nigeria. Bon, l'invité va nous le dire tout à l'heure. Merci d'avoir appelé Joël. Vous êtes à Maggie, bonjour.
Ok, bonjour, je dis bonjour à l'invité de l'heure et bonjour à tous les auditeurs de la radio de la paix.
Quelle est votre question ou préoccupation par rapport à laboratoire agricole?
Ok, merci bien de m'avoir associé au sujet du jour. Je vais commencer par un petit apport par rapport à cette thématique. Vous savez, la vie humaine vraiment est basée sur l'agriculture. Alors, il fallait en tout cas qu'on mette beaucoup d'accent sur l'agriculture, parce que sans cela, la vie en tout cas est en danger. En tout cas, c'est une belle thématique qu'il fallait vraiment les temps se rouler, puisse beaucoup considérer, parce que sans l'agriculture, en tout cas, un pays qui n'a pas vraiment bien, qui ne soigne pas bien son secteur agricole, on risque d'avoir des problèmes sérieux. Alors, moi, ma préoccupation est celle-ci. Ici, à Mahagi, en tout cas, nous avons beaucoup de cultivateurs. Ils sont nombreux. Malheureusement, ils sont victimes parce qu'il y a des plantations qui souffrent des, les maladies, les termes, ils sont carrément techniques. Mais en tout cas, les cultivateurs ici à Mahagi, et ils pleurent beaucoup, ils font des plantations, mais en tout cas, cela n'arrive pas à produire tel qu'il fallait. Donc cela est dû aux multiples maladies qui sont en tout cas en train de connaître. Et cela fait que la production, en tout cas, de leurs plantations ne donne pas de la manière qu'il fallait. Mm-hmm. Mais alors qu'en toute la population de Mangi, donc la Mangi en tout cas est basée sur l'agriculture. Et pas de laboratoires. Alors, je voudrais poser l'évidence qu'il n'y a pas moyen que ces laboratoires, un jour, puissent bien atteindre à notre province. Parce qu'en tout cas, en Ivoire, la population qui dit, mais il manque de labos ou en tout cas des maladies qui rongent terriblement les différentes plantations. Il n'y a pas moyen que cela puisse aussi nous atteindre pour que nos plantations produisent une bonne manière et pour que la santé soit quand même bonne et uniforme. Merci bien.
Merci Joël de Maggi. Nous parlons de l'importance d'un laboratoire agricole. Malonga, vous êtes à Bandundouville. Bonjour.
Bonjour Jody. Bonjour à notre invité et à tous ceux qui nous suivent.
Quelle est votre préoccupation?
Bon, ma préoccupation Jody, si j'entends de mon laboratoire, moi, je me souviens qu'il y a besoin de recherche. où les chercheurs vont s'évoluer à chercher de ce qui est du domaine agricole. Alors, ce n'est pas un lien de production des aliments, non. Mais c'est un lien que le pays trouve, nous les Congolais, nous avons la chance de trouver un lien où, par exemple, ici chez nous, à Bandundu-Ville, nous faisons des postes, à travers ce laboratoire, les chercheurs seront là, les expérimentés seront là, ils nous aideront à trouver le pourquoi et les voies de moyens pour aboutir à la fin de ce congrès-ci. Moi, je veux demander à l'invité, comme ce laboratoire est là, je vois que ça sera un laboratoire régional, puisque le Kenya était là, le Rwanda et tout ça, et le nom d'abord, le nom de ce laboratoire, c'est un nom vraiment étranger du président que je mange ici. En tout cas, ça englobe vraiment la région. Et encore, sur le deuxième laboratoire, selon ce que j'ai déjà suivi, après ça de Nigeria-ci ou là-bas, alors nous serons plus avancés à cela. Lorsque nous allons cultiver, est-ce que tous les cultivateurs auront la chance de parvenir leur test de semences pour trouver de bonnes semences et pour trouver de bons rendements de ceux qui ils ont toujours souvent souffert. Parce que la population, s'il vous plaît, je dis, subit beaucoup de souffrances. Vous pouvez trouver un village qui cultive une montagne, un espace comme ça, mais ils vont récolter moins, puisque à l'insecte, à d'autres maladies qui font souffrir
qui détruisent les plantes.
Est-ce que la population du village là-bas, de Sirikivu d'abord, tout ce que par là où il y a, de Chabunda, de Sisi, de Walikale, de tout ça là-bas, est-ce qu'ils auraient accès libre de faire parvenir leur échantillon pour pouvoir les aider à trouver de bonnes semences?
Bien, merci. Malonga de Bandundu-Ville, Dieudonné, vous êtes à Arou, bonjour.
Bonjour Radio Campi, le sujet m'intéresse plus. Vraiment, ce sujet me paraît vraiment au niveau exceptionnel. Moi, j'avais voulu juste de savoir ce laboratoire vraiment sera très important, tel que pour notre milieu, qui est tellement agricole. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir ce laboratoire-là agricole, est-ce qu'il sera installé dans des provinces au niveau du territoire ou au niveau national? Et si c'est cette question-là qui est au niveau du territoire de provincial national, combien sont ces laboratoires qui sont déjà installés en RDC chez nous?
Bien, merci. Kachai, vous êtes à Kanyoka. Nous parlons de l'importance d'un laboratoire agricole, comme c'est le cas du laboratoire des biotechnologies agricoles inauguré récemment par le chef de l'État à Kalambo, au sud Kivu. Kachai de Kanyoka, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody Daniel Kachama, et bonjour à l'invité.
Quelle est votre préoccupation?
Merci beaucoup, monsieur Jody. Nous avons tous salué l'inauguration du laboratoire par le président de la République à Bukavu. Monsieur Jody, ce laboratoire-là est profitable, surtout à ceux qui sont du côté de l'est du pays. Mais nous n'avons pas senti aussi comment ce laboratoire va nous aider, surtout que nous sommes de l'autre côté de l'ouest du pays, où nous ne sommes pas surtout intéressés. La population elle-même s'occupe de l'agriculture sans tenir compte de certaines exigences de l'agriculture pour semer et récolter en bonne et due forme. Auparavant, monsieur, je dis avant que ce centre, les labos là soient inaugurés, il y avait un centre ici pour Dalou qui distribuait aussi des engrais à certains agriculteurs pour qu'ils puissent normalement faire en sorte qu'ils sèment et récolter en toute quiétude. Mais les problèmes que nous avons constatés ici, surtout même à Kananga, un problème de maïs se pose. Oui. Les maïs qu'on...
Mais il semble que actuellement au Kasaï, Actuellement, le maïs coûte très cher. Il y a une pénurie de maïs au Kassai, Kachar.
Très cher, monsieur. Je dis, les gens passent la vie en total dénuement à cause de ça. Et surtout que c'est la nourriture principale. Un méca coûte 3500, 4500 francs. Monsieur, je dis, avec la population, vous connaissez aussi quand même les réalités du coin. Surtout que vous voyez tout ce qui se passe au Congo. En tout cas, le maïs pose problème ici au Kassai, surtout que nous n'avons pas de champs ici. Nous allons nous approvisionner en maïs de Mweka dans la province du Kassai. Maintenant, pourquoi il y a eu hausse des prix? Parce que le gouverneur de là a demandé à ce que les opérateurs économiques du centre du Kassai central qui négociaient un wagon de maïs à 190 000 francs commence à les négocier à 530 000 francs. Ce qui a fait, c'est que nos populations commençons à croupir dans la famine. Quand cela ne tient pas, que le labo est déjà inauguré. Mais je ne sais pas, c'est pourquoi je disais, nous n'allons pas surtout sentir les avantages de ce labo-là, à telle enseigne que nous sommes distants du sud Kivu. Car cela ne tient. Je voulais demander
d'accord.
À monsieur l'invité.
L'invité nous dira comment est-ce que les boutures, ces boutures ou bien les variétés améliorées pourront atteindre la région de l'ouest du pays. Merci d'avoir appelé. Vous avez une autre préoccupation?
L'autre préoccupation, c'est pour savoir quand est-ce qu'un service aussi de ces labos-là sera installé ici au Kassai, surtout, pour nous permettre à avoir des boutures et des engrais pouvant nous permettre à faire une bonne agriculture. Et aussi, comment on va commencer à former les agriculteurs, surtout du village. Parce que là où moi je suis, il y a beaucoup de villageois qui s'occupent à l'agriculture. Maintenant, je ne sais pas, ils vont commencer à faire une agriculture intensive ou soit extensive. Merci beaucoup.
Bien, nous avons en ligne Paul Donson, il est chercheur à l'ITA, à l'Institut International d'Agriculture Tropicale. Paul Donson, bonjour.
Bonjour.
Voilà, donc tout à l'heure, on avait un entretien avec M. Bernard, je crois qu'il n'est plus disponible, alors mais vous êtes là, vous êtes de la même organisation. Il y a quelques préoccupations des auditeurs par rapport à la thématique du jour, l'importance des laboratoires agricoles. Il y a par exemple Pierrot Pagnan de Lumbashi qui veut savoir, est-ce que l'État également va apporter des financements à ces laboratoires pour vous aider à faire les recherches?
Oui, par rapport à ça, je pense que le discours du chef de l'État a été très clair par rapport à ce qu'il a vu ici. Il a, dans son discours, je pense, il a dit que cet exemple doit être répété dans presque toutes les provinces afin que beaucoup de Congolais puissent avoir accès à ce genre d'outils de haute qualité. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est en vue dans le gouvernement et l'ITA, de son côté, est toujours prêt à accompagner le gouvernement dans tous les endroits où ils veulent aller.
D'accord, Pierrot a posé une deuxième question. Il a parlé de la maladie Kondjo, cette maladie d'origine alimentaire qui touche beaucoup de personnes dans notre pays. C'est suite à la consommation du manioc. Alors, il veut savoir si les recherches qui seront menées dans ce centre vont également aider à résoudre ces problèmes de cette maladie, Kondjo.
Comment s'appelle cette maladie?
La maladie Kondjo.
Kondjo. Kondjo.
Voilà.
Elle se manifeste comment?
Voilà, c'est une maladie qui amène une paralysie, qui est d'origine alimentaire. C'est suite à la consommation, je crois, du manioc amer qui contient la cyanure.
Ok, si c'est par rapport à la cyanure qui est un poison, le processus que nous mettons en place est un processus qui permet de réduire le taux de cyanure ou bien de l'annuler. Et ce qui reste, ce qu'on produit, le manioc qu'on produit est un manioc sain, qui ne contient plus de cyanure. Et donc, notre processus de transformation essaie d'enlever tous ces poisons sur le manioc afin d'avoir une farine de manioc saine et qui n'a pas de problème de santé au consommateur.
Alors comment est-ce que c'est, vous allez faire pour diffuser ces boutures améliorées, par exemple, qui ne contiennent pas la cyanure, pour que ça arrive ça, jusqu'au niveau des régions où la maladie bat son plein?
Vous savez, ce n'est pas les boutures, c'est pas les boutures qui ne contiennent pas la cyanure, c'est le processus de transformation qui élimine la cyanure. Le manioc tubercule, il y a toutes les variétés dont vous avez mentionné, font la cyanure. Et maintenant, c'est dans le processus de transformation, n'est-ce pas, qu'on enlève la cyanure. Donc, s'il n'y a pas une bonne transformation, le produit fini va toujours contenir de la cyanure. Ce n'est pas un problème de bouture, je crois. Donc, si vous parlez déjà du manioc amer, il y aura toujours cette cyanure. Donc, c'est le processus de transformation qui doit enlever la cyanure. Et c'est ce que nous avons mis sur pied ici à Kalambo, pour apprendre aux gens comment transformer le manioc en sorte d'avoir un manioc sain, sans cyanure, et qui est et avoir une farine panifiable qui peut être utilisée pour la pâtisserie et aussi pour la consommation en termes de foufou, en termes de bougali, comme ils appellent ici.
Oui, est-ce que y aura des moniteurs qui vont descendre, par exemple, dans les régions affectées pour apprendre aux gens comment faire cette transformation?
Oui, comme on le fait toujours dans cette zone, partout où nous sommes, quand on a une technologie, nous travaillons avec des partenaires locaux qui sont des ONG, qui sont des agents de l'État en termes de vulgarisation. Nous travaillons avec IPATEL, les gens de IPATEL, pour la large dissémination de tout ce que nous avons. Donc, des ONG de développement qui travaillent dans l'agriculture, nous les utilisons pour disséminer les bonnes technologies que nous avons aux paysans. Donc, c'est si nous partons au Kasaï ou bien à Kisangani, c'est la même chose que nous allons faire.
Bien, Joël de Marag y a appelé pour dire que là-bas, les agriculteurs font face à beaucoup des difficultés. La production agricole est en baisse à cause des maladies qui touchent les plantes. Il veut savoir si l'ITA pense aussi ouvrir des succursales, par exemple, dans les autres provinces du pays, pour permettre aux agriculteurs de bénéficier des variétés améliorées.
Bien sûr, notre intention est d'aider les petits paysans où qu'ils se trouvent au Congo. Mais cela va se faire progressivement, n'est-ce pas? Parce qu'au départ, nous étions à Kinshasa, nous étions à Kinshasa, dans le Bandundu, un peu à Kikwit, nous étions parfois à Kisangani avec l'INERA, mais nous sommes aussi à l'est du Congo, nous sommes présentement dans le Tanganyika, et bientôt on va aussi aller au Maniema, et il y a aussi un autre projet qui va commencer peut-être au Kasaï, et nous comptons être là. Le gouverneur de Ituri était ici, et il a demandé aussi qu'on vienne commencer à faire discuter avec eux pour voir comment, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, comment Haïti peut aider les populations de sa province. Donc, notre intention est d'assister les paysans congolais où qu'ils soient, ainsi de suite. Donc, ce genre d'appel vont nous faire que Haïti augmente un peu sa présence dans d'autres provinces et pour mieux assister les institutions étatiques et d'autres organisations qui auront besoin de notre coup de main.
D'accord. Avant de reprendre aux autres questions, on va accueillir d'autres auditeurs. François nous appelle des Lubumbashi et Glody de Bandundu-Ville. Nous parlons de l'importance des laboratoires agricoles. François, bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre préoccupation?
Bonjour. Oui, j'aimerais savoir...
Oui, François, on vous écoute. Désolé, il y a de soucis par rapport à la communication. On va accueillir Glody qui est à Bandundu-Ville. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les auditeurs du site de la Radio Capi.
On vous écoute, Glody.
Oui, merci beaucoup pour la parole accordée. Le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment nécessaire, vraiment, parce que quand on parle de l'agriculture dans notre pays, on voit des laboratoires. Parce que les laboratoires sont là pour donner des solutions concrètes. Parce que si la République démocratique du Congo nous constatons qu'il y a beaucoup de maladies qui sont d'origine alimentaire. Alors, ces laboratoires-là, vraiment, doivent avoir un travail à faire afin de donner le plus de solutions concrètes. Parce que, en République démocratique du Congo, il y a beaucoup de gens qui sont attaqués par des maladies d'origine alimentaire. Alors, je pose la question à l'invité qui est là avec vous. Quelles sont les solutions que ces projets-là ont de proposer? Parce que chez nous, ici, dans les grands bandes, par exemple, les provinces du Congo, est touché par la maladie, ce que nous appelons le conzo. Alors, cette maladie-là est d'origine alimentaire dans les maniocs. Alors, qu'est-ce que ces laboratoires-là peuvent faire, ou encore, qu'est-ce que ces projets-là peuvent faire, afin de donner des solutions? Et parfois aussi, les autres provinces aussi sont attaquées par aussi des maladies d'origine alimentaire. Alors, quel est le projet qu'on doit faire, afin d'éradiquer cette maladie-là, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo? C'est ça ma question pour aujourd'hui.
Merci, Glody de Bandundouville. Je reviens à vous, Monsieur Paul Danson, chercheur à l'ITA. Il y a eu d'autres questions. Par exemple, Malonga de Bandundouville veut savoir si les agriculteurs, les petits producteurs peuvent amener des échantillons, s'ils font face à certains problèmes, à certaines maladies. Est-ce qu'ils peuvent amener des échantillons au niveau du laboratoire pour des recherches?
Ok. Par rapport à cette dernière question, s'ils peuvent amener leurs échantillons, la réponse est oui. Un oui vraiment très capital. Parce que bon, ça a l'essence même d'avoir ce genre de laboratoire, non pas seulement pour aider les institutions, mais aussi pour aider les individus qui veulent connaître l'état de leur somme. Mais ce que les auditeurs doivent comprendre, c'est que le laboratoire a aussi un peu des produits chimiques qu'il faut utiliser. Et donc, on peut faire des analyses pour eux, mais ils vont un peu supporter les petits coûts pour les produits chimiques. Pour les produits chimiques utilisés. Donc, c'est pas aussi très grand, mais c'est juste quelque chose pour faire fonctionner le laboratoire, pour acheter les produits, les substrats qu'on utilisera pour faire les analyses de ça.
Voilà, Kachal de Kanyoka a appelé pour dire qu'il a l'impression que ce laboratoire va aider seulement les agriculteurs de l'Est du pays. Est-ce que ceux qui sont à l'Ouest, au Kasaï, vont également bénéficier des recherches qui seront menées dans ce laboratoire?
Bien sûr. Il faut... c'est seulement la distance qui est un peu problème. Mais si les gens du Kasaï ont besoin... de quelque chose qui est fait dans ce laboratoire, il suffit qu'ils fassent la demande et on voit un peu la faisabilité. Donc, en attendant que peut-être il y ait des investissements pour faire un laboratoire qui serait un peu plus proche d'eux, donc s'ils ont peut-être besoin, ils peuvent tout simplement faire une demande à AETIE, à IDEA, et on verra comment cela pourrait être possible.
Voilà, il a également relevé le fait qu'actuellement il y a une pénurie de maïs dans le Kasaï. Maintenant, ça coûte un peu plus cher et ça va au-delà du pouvoir d'achat de certaines populations. Alors, comment est-ce que les recherches au niveau de l'ITA peuvent aider à améliorer la production de maïs pour faire face à cette pénurie?
Justement, en termes de maïs dans le Kasaï, il y a déjà des réflexions qui sont en train d'être faites pour amener certains projets dans le Kasaï. Et je pense qu'il y a aussi une initiative de la Banque mondiale qui est sur le plan santé, hein, qui se passe au niveau du Kasaï. Et peut-être l'ITA va jouer un rôle important dans ce projet. Et donc, en termes de nutrition, on parlera du maïs. Et le maïs est aussi un vecteur de maladie si on ne fait pas attention. Par exemple, ici au Sud Kivu, nous avons fait des études sur le maïs en termes de toxines qui se trouvent dans cette culture. Mm-hmm. Et nous avons constaté que le maïs qu'on consommait ici avait un très fort taux. Qui était au-dessus de la normale, hein, de toxines. Et ces toxines-là provoquent parfois des cancers de foie et d'autres maladies comme le retard de croissance et ainsi de suite. Et pour les animaux qui sont nourris avec le maïs qui contient cette toxine, ça crée même aussi un retard de croissance et parfois même la perte des bétails et ainsi de suite. Donc, ce laboratoire est mis sur pied pour produire un antidote que les paysans qui peut aider à réduire considérablement la toxine dans les produits de maïs et de parachutes produits. Donc ça c'est un peu quelque chose qui est aussi bien dans ce laboratoire et qui pourrait être amené au Kasaï dans le nouveau projet de la Banque mondiale qui regarde la nutrition.
D'accord, on va terminer avec les deux auditeurs qui sont en ligne, Richard de Kananga et Alain de Lumbashi. Richard, bonjour.
Bonjour, Radio Capi. Bonjour, Alain.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, merci beaucoup. Je voulais au moins dire à l'invité ceci que ici, avec la guerre qu'a connue la province du Kasaï central, certains villages environnants de la ville de Kananga produisaient des maïs, des manioc aussi pour nourrir la population du centre-ville. Mais les organismes qui sont venus sont en train de distribuer de l'argent aux villageois. Connaît des atrocités et puis ces villageois-là ont abandonné les activités champêtres, les travaux champêtres qu'ils faisaient. Maintenant, ça créait un problème au centre-ville. Le maïs a coûté cher, ceux qui venaient de Mueka n'étaient plus et tout ça. Alors, c'est pourquoi je voulais aussi demander à l'invité. Même dans ces villages-là, les enfants mangent beaucoup plus les manioc que le maïs. Ils mangent les vidias là. Qui n'est pas surtout mélangé de la farine de maïs et du manioc. Il privilégie beaucoup plus la farine du manioc. Et puis, les enfants sont frappés de kwashiorkor, marasme, malnutrition, sous-alimentation.
Richard, Richard, alors pourquoi ces agriculteurs, ces paysans-là ont abandonné les champs? C'est parce qu'il n'y a plus de semences?
Non, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de semences. Ils ont de l'argent, on leur a donné beaucoup d'argent. Imaginez-vous, dans une famille, on peut donner 1 million de francs congolais à un membre de la famille. Si vous êtes au nombre de 5, 6, 7, vous voyez donc tout cela avec l'argent. Et vous dites, bon, nous sommes des riches, nous pouvons aussi aller au centre-ville acheter. Alors, c'est comme ça qu'ils se sont contentés de commencer à quitter les villages.
Et abandonnant les champs.
Ils ont abandonné les champs. Et maintenant, cet abandon-là a créé une pénurie de maïs et de manioc sur la ville de Kananga. Et les maïs qui venaient même de Mueka, vous savez, le Kasaï central est nourri par la province du Kasaï en manioc et en maïs. Maintenant, ça ne vient plus. Le gouverneur de là, avec son gouvernement...
D'accord. Quelle est la question? On n'a plus beaucoup de temps. Quelle est la question que vous adressez à l'invité?
La question, c'est que je voulais demander à l'invité. Que faire pour encourager ces villageois-là à pouvoir normalement cultiver et aussi faire en sorte que leur sol devienne fertile pour pouvoir nourrir aussi les centres-villes qui ne savent pas faire des champs?
D'accord. Merci Alain de Lumbashi. Bonjour. Quelle est votre question rapidement?
Bonjour. Je dis rapidement la question, c'est de savoir. J'ai suivi depuis le début de l'émission. Bernard, avec les laboratoires, ils sont capables de poser des semences améliorées. Alors, je pose maintenant la question à l'invité qui est là en ligne avec vous. Est-ce qu'il y a une différence entre la semence, les semences améliorées et les organismes génétiquement modifiés? Étant donné que lui-même venait de dire que il y a un principe. En fait, c'est moi qui dis qu'il y a un principe. Il dit les naturels reconnaissent les naturels. Alors, avec les semences, les organismes génétiquement modifiés, il y a crainte que l'organisme qui est naturel puisse plus tard ne pas reconnaître certains produits, certains ingrédients qui sont dans les OGM. Alors, avec ces laboratoires, puissent-ils nous garantir qu'ils ne pourront pas nous produire des organismes génétiquement modifiés avec toute l'apparition des trucs que nous avons comme ici, qui n'ont plus les goûts d'un fruit naturel, mais qui ont des belles apparences. Je ne veux pas entrer dans une situation que
d'accord.
Justement à la fin. Alors, voilà.
Voilà, monsieur Paul, vous avez suivi. Est-ce que ces laboratoires ne vont pas produire des OGM?
Question. Oui, j'ai bien suivi la question. Et la réponse d'emblée est non. Nous ne produisons pas les OGM dans ces laboratoires. Et je m'explique. Peut-être il est important de revenir un peu sur ce que le laboratoire fait en fait. Nous avons parlé, vous avez parlé de mon directeur qui a parlé que le laboratoire servira à multiplier rapidement les variétés améliorées de manioc. Quand nous parlons, ce qu'on entend par améliorer, c'est quoi? C'est par exemple des variétés qui ont certaines propriétés telles que le haut rendement, telles que être beaucoup plus tolérant à certaines maladies ou bien être carrément pas tolérant ou résistant à certaines maladies. Donc, par exemple, nous avons la souille brune qui est en train de déranger beaucoup le manioc à l'est du Congo, par exemple. Nous avons identifié certaines variétés de manioc qui sont tolérantes à ces maladies-là. Par exemple, si nous avons maintenant ces variétés qui sont tolérantes à la maladie, ça c'est une variété qui est améliorée dans ce sens que c'est tolérant à cette maladie-là. Maintenant, le problème c'est comment est-ce qu'on peut multiplier ça rapidement pour donner aux paysans en un temps record. Jusqu'ici, on n'avait pas une façon de multiplier que d'aller planter au champ et attendre, par exemple, 9 mois et venir couper et ainsi de suite. Donc maintenant, cette technologie nous permet de multiplier. Ça, c'est pas une multiplication génétique, mais c'est une multiplication mécanique. Si vous visitez le laboratoire, vous allez voir comment ça se fait.
Oui.
Vous pouvez replanter et replanter à une fréquence beaucoup plus rapprochée, ce qui fait que en 2 semaines, on peut recouper et replanter. 2 semaines, on recoupe, on replante. Ça augmente le nombre de plantes qu'on peut avoir.
Monsieur Paul Danson, on a pris beaucoup de temps, c'était tellement intéressant. Je crois qu'on va revenir là-dessus une prochaine fois. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'ITA, Institut international de l'agriculture tropicale. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler de l'importance d'un laboratoire agricole. Bonne journée.
Merci beaucoup. Yeah.